Et les bords, minuit.
De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur Et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur Et les bords.
Should have thought about all this before. Sydney. Suzanne Scott est une perle. Nous avons vendu plus de 40 exemplaires du livre, ce qui est plutôt réjouissant, mais le plus merveilleux de mon point de vue a été la partie ravitaillement. Suzanne nous a déniché des tickets de rationnement pour du sucre glace et de vrais œufs afin de nous confectionner des meringues. Si tous ces déjeuners littéraires atteignent ces sommets, je suis partante pour une tournée dans tout le pays. Penses-tu qu'un somptueux bonus l'encouragerait à nous trouver du beurre ? Essayons, tu n'auras qu'à déduire la somme de mes droits d'auteur. À présent, les mauvaises nouvelles. Tu m'as demandé si mon nouveau livre progressait ? Non, Sydney, il ne progresse pas. Les faiblesses anglaises s'annonçaient pourtant si prometteuses. Après tout, on devrait pouvoir écrire des tartines sur la société anglaise pour dénoncer la glorification du lapinou anglais. J'ai exhumé une photo du syndicat des exterminateurs de nuisibles défilant dans Oxford Street avec des pancartes « Abba Beatrix Potter ». Mais que peut-on ajouter à cela ? Rien, rien du tout. Je n'ai plus envie d'écrire ce livre. Je n'ai plus ni la tête, ni le cœur à l'écrire. Aussi cher que m'a été, et m'est encore, Izzy Bickerstaff, je ne veux plus rien écrire sous ce nom. Je ne veux plus être considérée comme une journaliste humoriste. Je suis consciente que faire rire, ou au moins glousser les lecteurs en temps de guerre n'était pas un mince exploit, mais c'est terminé. J'ai le sentiment d'avoir perdu le sens des proportions ces derniers temps, et Dieu sait qu'on ne peut rien écrire de drôle sans cela. En attendant, je suis très heureuse que Stephen and Stark gagne de l'argent avec Izzy Bickerstaff s'en va en guerre. Le fiasco de ma biographie d'Anne Brontë me pèse moins sur la conscience. Merci pour tout, affectueusement, Juliette. PS, je suis en train de lire la correspondance de Mrs. Montagu. Sais-tu que cette femme lamentable a écrit à Jane Caryl ? Ma chère petite Jane, tout le monde naît avec une vocation, et la vôtre est d'écrire de charmantes petites notes. J'espère que Jane lui a craché au visage.
So far, I find you.
Des 8 candidatures qu'elle avait reçues par lettre, elle ne retint que 3 postulants, éliminant sans pitié les fauteurs d'orthographe, les débordants d'enthousiasme disproportionnés, ceux qui lui proposaient leur service avec mensuration flatteuse à l'appui, et les jeunes femmes peu attentives ou qui avaient faim de ne pas remarquer l'absence pourtant significative de E à Féru. 3 types sérieux avec des CV remplis de bonnes écoles et de beaux diplômes. C'était grisant de relire leurs lettres en les attendant. Chacun maniait la flatterie modérée ou la galanterie bien comprise. Tous se souciaient de paraître aussi dévoués qu'admiratifs. Aucun ne lui avait semblé doté d'assez d'esprit pour lui convenir au premier coup d'œil, mais elle se sentait bienveillante, vaste et haute et sage, et prête à répandre sur ses aspirants son indulgente et bénéfique influence. Le premier, né en 75, était un gros garçon à la face élargie, les cheveux trop courts pour son front luisant, mais trop long sur sa nuque grasse. Des yeux intelligents, mais l'allure maladroite. Il était si encombré dans son corps qu'on n'avait aucune envie de s'intéresser à son esprit. Ne s'étant pas paré à l'impartialité, Cressida décida dès les premiers mots que ce candidat ne conviendrait pas. Sa voix fluette ajoutait encore à son apparence crapaude. Une fois la porte refermée sur le disgracieux, elle se fit quelques remarques. « Tu as été un peu dur, que sont ces préjugés ?» Mais très vite, réconfortée par une tasse de thé vert au riz soufflé, elle se trouva pardonnable. « Il faut quand même que ce soit un homme avec qui j'ai plaisir à parler. Je vais devoir lui offrir mes placards, l'emmener à la campagne, voir les mâles du grenier. Si je dois me boucher les oreilles à chaque fois qu'il l'ouvre, ce ne sera pas efficace. » Le deuxième avait de très gros yeux de bulldog, un nez court et pâté et une bouche épaisse, étroite. Pas très grand, assez mal habillé, d'une chemise noire brillante, qui lui donnait l'air d'un garçon de café en civil, mais la voix très douce et le débit lent, attentif. Tout en lui expliquant la tâche et en lançant des regards agacés sur les maillons chromés de son énorme montre, sur l'anneau d'argent noirci enfilé à son pouce, sur ses doigts courts et ses pieds trop petits. Cressida se disait « Il m'en reste un à voir et j'aurai probablement encore d'autres réponses. Je ne suis pas obligée de me décider vite, rien ne presse. Cette idée est sans doute prématurée de toute façon. » Le troisième, un millésime 71, lui plut tout de suite. Grand, brun, par-dessus de tweed sur un jean rempli aux bons endroits, les gestes rapides, l'air de savoir ce qu'il vaut et où il va. Charmée d'avance, elle lui demanda de lui raconter un peu sa vie, comme ça, entre nous. Elle s'attendait à être conquise. Mais le jeune homme, sûr de lui, le ton épique et la voix métallique, faisant crisser les sifflantes comme une craie dérapant sur un tableau, empilait les expressions les plus énervantes. Il n'avait pas toujours vécu sur Paris. Il avait de l'ambition, c'était clair. Il arrivait parfaitement à gérer sa vie professionnelle et ses passions multiples. Il se disait sincère et vrai, simple et sensible. Ses grands gestes montraient tout le contraire. Le cœur de Cressida grinçait comme la vis d'un vieux pressoir rouillé. Elle se mordait les lèvres, se passait la main sur le front, si bien qu'au bout d'un quart d'heure de monologue, son vis-à-vis fut bien obligé de s'inquiéter. « Non, vous êtes gentil, j'ai eu une journée un peu fatigante, merci. J'ai vos coordonnées, je vous rappellerai. C'est ça, à bientôt. »
De l'eau sur Mars, sur Hellebore.
Thank you. place. Lights and music, go.
La propriétaire était une matrone indienne antique qui ne posait pas de questions tant que le loyer était payé, plus ou moins en temps et en heure. Elle trônait derrière le comptoir de la boutique du rez-de-chaussée, telle une statue en bois, immobile et le regard fixe, dans les odeurs de cuir, de cirage et de colle qui alourdissaient l'air comme celle de l'encens. Elle n'a rien dit, s'est contentée de hocher légèrement la tête quand j'ai poussé 300 livres en liquide dans sa direction. La porte métallique voisine de la boutique donnait sur un couloir en béton éclairé par une lampe jaune clignotante. Ensuite, un escalier en colimaçon, recouvert d'une moquette marron, jusqu'au deuxième étage. La chambre était crasseuse, froide et petite. La moquette marron foncée était élimée. Notre télévision portable, en noir et blanc, se trouvait sur une commode branlante, face au lit escamotable sale. Il y avait une petite cuisine inutilisée et une salle de bain sombre. Parfois, pendant les heures silencieuses qui précèdent l'aube, on entendait les souris courir à l'intérieur des murs. On s'est remis à prendre beaucoup d'héroïne. Dans cet endroit, j'ai vu Suzanne se ratatiner et vieillir spectaculairement. Allongée sur le lit, gémissant le plus souvent à cause du manque, elle se fixait et dégageait la puanteur des morts vivants. De temps en temps, quand je me sentais trop malade pour bouger, elle cédait et accomplissait le trajet compliqué jusqu'à Hammersmith pour acheter de la drogue à Hergy. Mais je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'attendre son retour était plus pénible qu'y aller moi-même. la sensation horrible d'immobilité, d'arrêt du temps, qui semblait même parfois revenir sur ses pas, pendant que la télévision crachotait les mauvaises émissions de la journée, que les démons et le manque m'écartelaient sur le lit, était plus insupportable que le trajet.
More.
La mère resta encore quelque temps dans la salle à manger avec le baron. Mais il ne parlait plus d'éléphant ni de chasse. Une légère oppression, un embarras subi, dominaient leur entretien depuis que l'enfant les avait quittés. Finalement, ils se rendirent dans le hall et s'assirent dans un coin. Là, le baron ne tarda pas à retrouver sa verve et se montra de plus en plus étincelant. Elle-même, le champagne aidant, était un peu animée. La conversation prit donc vite un caractère dangereux. À vrai dire, le baron n'était pas ce que l'on appelle un bel homme, mais il était jeune et avait un aspect très viril, avec son visage légèrement bronzé et ses cheveux courts. Il ravissait cette femme par la liberté presque impertinente de ses mouvements. Maintenant, elle aimait à le regarder de près et n'avait plus peur de ses yeux. Petit à petit se glissa dans les paroles du baron une hardiesse qui la troubla, quelque chose qui était comme une façon de saisir son corps, de le tâter et puis de le laisser. Quelque chose qui ressemblait à un désir indicible et qui faisait monter le sang à ses joues. Mais aussitôt, il se remettait à rire étourdiment, librement, comme un enfant, ce qui donnait à ces petites manifestations du désir une apparence de gaminerie. Parfois, il lui semblait qu'elle allait repousser avec sévérité certaines audaces. Parfois, il lui semblait qu'elle allait repousser avec sévérité certaines audaces de langage. Mais comme elle était d'une nature coquette, ces audaces ne faisaient que l'exciter à en entendre davantage. Et, entraînée par ce jeu téméraire, elle essaya même, à la fin, de l'imiter. Elle répondait. Ses regards lançaient à son partenaire de vagues promesses. Elle s'abandonnait déjà, dans ses mots et dans ses mouvements. Elle tolérait même son approche, le voisinage immédiat de cette voix dont elle sentait parfois le souffle chaud et frémissant sur ses épaules. Comme tous les joueurs, ils ne se rendaient pas compte de l'écoulement du temps et ils étaient si complètement absorbés par leur ardent entretien qu'ils eurent un sursaut de frayeur lorsqu'à minuit, les lumières du hall s'éteignirent en partie.
De l'eau sur Mars, sur Elébor.
Waiting, 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 wa Pausing out, dear.